avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, c'est la rentrée scolaire, 7 milliards de voisins et de voisines, rentrée scolaire en France, une rentrée marquée par un risque terroriste élevé et des mesures de sécurité renforcées, avec notamment des exercices d'attaque terroriste pour les enseignants et leurs élèves dans les classes. Alors comment l'école avec un grand E, va-t-elle encaisser cette nouvelle culture de la gestion des risques? Avec quelles conséquences pour les élèves? L'école peut-elle demeurer un lieu ouvert de tolérance, de savoir éclairé, elle qui, finalement, depuis les attentats contre Charlie Hebdo, est placée en première ligne pour faire rempart contre la radicalisation des jeunes et porter les valeurs républicaines. Toutes ces responsabilités sont-elles supportables pour une telle institution? Nous allons en discuter avec Jean-Jacques Renard, vice-président de la FCPE Paris. Bonjour.
Bonjour.
C'est la principale fédération de parents d'élèves en France. Valérie Sipahi-Malani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire générale adjointe du SNES, le syndicat d'enseignants majoritaires en collège-lycée. C'est-à-dire que vous êtes vous-même une enseignante.
Oui, je suis prof en cité scolaire.
Voilà. Philippe Tournier est également dans le studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous représentez les chefs d'établissement, secrétaire général du syndicat des chefs d'établissement en première ligne en tant que chef d'établissement pour les mesures de sécurité, puisque vous êtes, juridiquement responsable de la sécurité des élèves.
Tout à fait, nous sommes responsables avec l'adjoint gestionnaire, ce qu'on appelle communément l'intendant.
C'est ça, en tant que proviseur.
Tout à fait.
Patricia Garoust sera en ligne avec nous. Elle est psychologue scolaire. Et nous entendrons également le témoignage d'une enseignante de lycée en Israël, à Jérusalem. Et chez vous, les voisins, avez-vous le sentiment que la menace terroriste pèse également sur les enfants? Comment les rendre vigilants sans les angoisser, leur permettre de travailler dans un climat serein? Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour partager vos interrogations, vos observations, quel que soit le pays dans lequel vous résidez, au 33 1 84 22 71 71, et bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Je vous lis quelques messages. Celui de Brice, qui est à Yaoundé, au Cameroun, un pays cible de Boko Haram. Tous les établissements scolaires, nous dit Brice, de mon pays, ont une même mission, celle de veiller à la protection de son personnel et de ses élèves. Et pour y parvenir, chaque établissement camerounais, qu'il soit public ou privé, d'ailleurs, doit disposer de plusieurs agents de sécurité et d'un détecteur de métal. Aussi, chaque élève, enseignant, parent, est fouillé désormais à l'entrée. Malheureusement, il n'y a pas de moyen pour plus d'équipements de sécurité. Daniel est à N'Djamena, au Tchad, également un pays cible de Boko Haram sur le continent africain. Le Tchad est un pays qui connaît ses menaces terroristes, mais la sécurité, nous dit Daniel, n'est pas rigoureuse. Quelques rares policiers ont surveillé les établissements scolaires au moment chaud, mais ces derniers jours, on ne les voit plus. Voilà, je vous rappelle notre numéro, y compris si vous êtes en région parisienne, bien sûr, 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Et nous accueillons une auditrice en région parisienne. Elisabeth, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes institutrice à Paris. Comment s'est passée votre rentrée sous haute sécurité, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui?
C'est passé un peu comme d'habitude, je dirais. Lors de la journée de pré-rentrée, on nous a présenté le plan de prévention et de mise en sûreté. C'était un peu une découverte, hein, parce qu'on n'avait pas du tout été préparé à ça. On était tous au courant par qui disait en fait justement dans les radios, dans les journaux, mais rien de plus. Donc on a découvert ça à ce moment-là. Et c'était un peu surprenant, on ne savait pas trop ce qui nous attendait.
Qu'est-ce que vous en discutez là depuis, j'imagine, avec vos collègues, notamment vous enseignez en classe de quelle classe, vous, Elisabeth?
J'ai une classe de CM1.
Ouais. Et voilà. vos collègues institutrices de maternelle, par exemple, vous échangez avec elles, quels sont un peu vos sujets de discussion?
Oui, alors les réactions sont assez diverses. J'ai une collègue, par exemple, qui a des enfants, des jeunes enfants qui ont à peu près l'âge de ses élèves, donc 3, 4, 5 ans, et qui se sent assez prête en fait à faire ce type d'exercice avec ses élèves, parce qu'elle dit « je réagirai comme une maman, je leur parlerai comme une maman ». J'ai Par contre, d'autres collègues qui sont beaucoup plus inquiètes, qui ont peur également pour leurs enfants dans les écoles où les enfants sont, parce qu'elles se demandent quelle sera la réaction des enfants. En fait, c'est surtout ça qui effraie, c'est comment vont réagir nos élèves quand on va leur demander de se confiner dans la classe, de se cacher, voilà. Quelles seront les réactions pendant l'exercice, mais aussi après? Oui. Est-ce qu'il n'y aura pas des incidences sur leur comportement en classe, leur envie de venir à l'école chaque jour?
C'est quelque chose qui vous angoisse ou qui vous interroge et qui parfois parasite un peu votre mission d'enseignante ou pas tant que ça?
Moi, personnellement, non, ça ne m'angoisse pas. J'avoue que je ne m'étais pas projetée. Là, maintenant, je me projette. Mmh. J'essaie de les préparer dès maintenant, en fait. Mmh. Les enfants ont l'habitude d'avoir des cartes de sortie s'ils sortent seuls. Les gens qui rentrent dans l'école doivent avoir aussi une carte pour rentrer dans l'établissement. Donc, je leur ai expliqué voilà, que c'était une mesure de sécurité et que les mesures de sécurité allaient être de plus en plus importantes. Ils ont l'habitude des exercices pour l'incendie. Donc, voilà, j'essaie de les amener petit à petit à ce nouvel exercice qui va être, je pense, quand même assez troublant pour eux.
Merci beaucoup, en tout cas, Elisabeth, de nous avoir appelé. Vous pouvez bien sûr continuer de nous contacter au 33 1 84 22 71 71. Jean-Jacques Renard, en tant que représentant des parents d'élèves, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce témoignage et surtout par rapport aux parents d'élèves que vous représentez?
Oui, justement, en entendant donc Elisabeth, je me faisais la réflexion du vécu ces derniers mois avant les vacances. On a eu quand même une recrudescence, par exemple, dans les lycées de conseils de discipline, parce qu'il y a une angoisse dans la société et il y a un stress dans les établissements, aussi bien côté du personnel enseignant que parmi les élèves. Et la moindre petite altercation peut dégénérer et conduire de facto à un conseil de discipline avec tout ce que cela peut entraîner. Parce qu'un conseil de discipline, c'est très souvent une exclusion définitive de l'établissement. Et donc, en temps normal, une altercation bénigne se serait traduite par un rappel à l'ordre, par une petite sanction. Et là, tout d'un coup, ça se cristallise et on passe tout de suite au conseil de discipline. Et M. Tournier parlait tout à l'heure du climat scolaire et je trouve que c'est essentiel. Il faut vraiment veiller à ce que le climat scolaire soit le plus serein possible.
L'école sous stress scolaire, vous confirmez, Philippe Tournier, en tant que chef d'établissement?
Je ne sais pas si on a des données très, très pointues qui permettent de l'affirmer. Indéniablement, l'école qui est composée de gens qui sont dans la société, les personnels, les élèves, ne peut pas être à l'abri effectivement de ce climat un peu particulier qui s'est installé dans notre pays depuis maintenant plus d'un an.
Ouais, comment vous accueillez-vous en tant que syndicat enseignant, Valérie Sipahi-Lamalani, l'arsenal des mesures sécuritaires? Bon, on va en citer certaines. La question n'est pas de savoir quelle efficacité elles peuvent avoir, parce que bon, sinon il faut qu'on interroge des spécialistes de la sécurité, mais plutôt vous, comment vous vivez ces mesures en tant que professionnel de l'éducation nationale, le renforcement de la surveillance aux abords des établissements, le plan particulier de mise en sûreté, les exercices qui sont prévus, dont un scénario attentat-intrusion?
C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des exercices. Hein. Le plan particulier de mise en sécurité, il ne date pas des attentats. C'est un plan qui peut être, qui est lié à la situation du lycée. Vous êtes à côté d'un fleuve, vous faites un plan inondation, vous êtes à côté d'une forêt, un plan risque d'incendie, etc.
Enfin, tout cela a été revu.
Mais ça a été revu. Disons qu'on pense que c'est inéluctable. On peut pas, mais ça devrait rentrer dans les mœurs. On ne devrait pas avoir besoin d'y penser tout le temps et que ce soit anxiogène parce qu'on y pense. De la même manière qu'on arrive pas dans les établissements scolaires les années précédentes en se disant mon établissement risque d'avoir un incendie, qu'est-ce que je fais en cas d'incendie? Là, l'idée c'est qu'on arrive au bout de quelques mois de réflexion et puis peut-être ces exercices à faire en sorte que ce soit intégré et qu'on n'ait pas cette anxiété, qu'on n'ait pas ce stress. Cela étant, c'est différent suivant les académies. Moi qui suis parisienne, on a Vigipirate qui est là, on a parfois des soldats devant l'entrée de l'établissement, on ne peut pas oublier. Je suppose que c'est pareil pour la rentrée dans l'Académie de Nice, dans l'Académie de Rouen avec Saint-Étienne-du-Rouvray cet été. Dans les académies qui n'ont pas été touchées d'aussi près, peut-être que les choses sont un peu différentes. Et puis le souci qu'on a, c'est qu'il ne faudrait pas que ce soit trop compliqué non plus. Par exemple, là, typiquement, on est censé avoir 4 sonneries différentes dans les établissements. La sonnerie habituelle de fin de cours, la sonnerie quittons tous l'établissement, il y a un risque de type incendie, donc évacuation.
Donc de type sirène, là, plutôt.
Ah non, pas forcément. Ensuite, vous avez, ça dépend. Vous avez une autre sonnerie qui est la sonnerie de type confinement. Donc, on doit tous quitter nos salles et se retrouver dans une zone de confinement. C'est l'exercice qu'on a fait l'an dernier. Chez nous, ça a été quand même assez compliqué. Et puis, une dernière sonnerie qui est une nouveauté de la rentrée, c'est la sonnerie intrusion. Donc là, on se cache et on fait silence.
Est-ce que tout le monde a mémorisé, auditivement parlant, ces sonneries, les différences de ce qu'elles évoquent?
Mais pas encore, il va falloir quelques mois. De toute façon, moi, quand Elisabeth a pris la parole tout à l'heure, je me disais, c'est vrai, en tant qu'enseignant, on se demande comment on va faire, mais a priori, on travaille en équipe. On a quelques mois pour préparer ces exercices.
Quand vous dites que l'exercice de l'année dernière a été assez compliqué, qu'est-ce que ça voulait dire?
Ça voulait dire qu'il fallait identifier dans les établissements une zone où regrouper tout le monde assez rapidement. Donc tout le monde quitte sa salle et se retrouve dans des zones identifiées comme des zones de mise en sécurité. Alors nous, on a eu des retour. Par exemple, en Guyane, ils avaient identifié une zone de mise en sécurité, puis les pompiers sont venus leur voir en leur disant « ça, c'est pas du tout de la mise en sécurité, vous êtes sous le vent dominant, s'il y a un gros souci, vous flambez tous ». Mais ça, c'est là où on voit qu'on a vraiment besoin d'aide. On peut avoir des réflexes qui ne sont pas les bons.
Oui, ça n'est pas votre métier, faut-il le préciser.
On n'est clairement pas prof de sécurité.
Oui, et Philippe Tournier, en tant que chef d'établissement, ça n'est pas non plus votre premier métier.
Dans les établissements, les lycées et collèges, il y a donc des responsables de sécurité, mais il n'y a pas de... Ça n'est le métier de personne. Hein. Tout est basé sur la bonne volonté. Les gens essaient de bien faire avec les ressources dont ils disposent. Et c'est vrai qu'on essaie d'imaginer des plans. Alors, il y a aujourd'hui notamment des liens avec les services de police qui donnent des conseils. Hein. C'est indéniable. Bon, ceci dit, ces plans relèvent aussi souvent du simple bon sens. Hein. Voilà. Ce qui est nouveau, c'est pas de scénariser que ça va forcément arriver. Ce qui est nouveau, c'est qu'on pense que ça peut arriver. Hein, c'est le passage de l'improbable au possible, tout simplement.
Il faut rappeler à nos auditeurs que l'école a été désignée par l'État islamique comme cible depuis les attentats de novembre dernier, puisque dans la revue d'Ar al-Islam, l'école était citée comme un lieu de mécréance et de perversion, et les professeurs désignés, décrits comme des corrupteurs à combattre et à tuer. Hein, il faut bien repréciser cela par rapport à la menace qui pèse sur le monde scolaire en France. 77 000 établissements scolaires au total à protéger. Est-ce que vous avez le sentiment que cela est faisable, que toutes ces mesures ont réellement un sens ou pas en tant que chef d'établissement, Philippe Tournier?
C'est-à-dire que depuis les attentats de cet été, le risque, c'est compliqué, puisque on était dans l'idée de l'attentat planifié par un groupe, par un cerveau, quelque part du côté de Raqqa ou de Mossoul, et on est passé tout à fait autre chose. C'est quelqu'un qui perd la raison tout seul dans son coin et qui, avec une grande économie de moyens, fait quand même des dégâts considérables. Donc c'est quand même très difficile de faire face à ce type de situation. On sait que ça peut arriver, mais ce n'est pas minimiser ce qui s'est passé que dire que quand même des risques qu'il y en a d'autres, et que parmi les petits écoliers français, le risque qu'ils se fassent renverser en venant à l'école est infiniment supérieur au risque qu'ils ont d'être victimes d'un attentat dans leur école. Dire ça n'est pas dire qu'il faut rien faire, mais dire qu'il faut quand même raison garder sur la proportion en fait des risques.
Et vous continuez évidemment d'être vigilant aux risques ordinaires d'accidents qui sont fréquents dans les milieux scolaires. L'école est un lieu où peuvent survenir aussi des accidents d'une finalement assez banale, mais néanmoins présent. Est-ce que vous ressentez une pression de la part des familles et des parents en tant qu'enseignants, chefs d'établissement, tous les deux?
Les parents d'élèves sont attentifs à cette question, comme il serait d'ailleurs étrange qu'ils ne le soient pas. Bon, mais on n'a pas le sentiment d'un stress particulier. Ce que veulent les familles, c'est que les établissements fassent quelque chose et en tous les cas anticipent ce qu'ils peuvent anticiper. Mais je pense qu'installer un climat général d'affolement et prétendre que l'on va sécuriser complètement à 100% 77 000 lieu d'enseignement.
Éviter les attroupements d'élèves devant le collège ou le lycée, c'est faisable ou pas, très honnêtement?
C'est difficile.
Comment vous y parvenez?
Ah bah, là, je veux dire que...
C'est quand même le lieu de convivialité avant de rentrer en cours, de discuter. C'est aussi ça.
Oui, alors l'État est toujours prompt à dire qu'il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, il y a CAF, Faucon, etc. Et que les collectivités territoriales n'ont qu'à payer. Il y avait une mesure simple, et on l'a tout de suite dit, d'ailleurs après le 13 novembre, à prendre pour éviter les attroupements, c'était de recréer le temps de l'état d'urgence. Donc ce n'était pas une mesure définitive. Le temps de l'état d'urgence des zones fumeurs à l'intérieur des établissements en respectant un certain nombre de règles. D'ailleurs, le premier lycée parisien qui l'a fait, c'est le lycée Voltaire qui est à côté du Bataclan. Et aujourd'hui, la proviseure du lycée Voltaire est quand même traînée devant la justice. C'est-à-dire que...
Parce qu'elle ne respecte pas la loi Evin, c'est ça ?
Parce que même, c'est même pas la loi Evin, c'est un arrêté d'application, etc. Et là, il y a quand même une certaine incohérence.
Parce qu'il faut repréciser que les lycées ont le droit normalement de quitter l'établissement, notamment à la récréation, et qu'à cet âge-là, ils ne veulent plus rester dans la cour de récréation et qu'ils veulent sortir fumer une cigarette.
Ah ben, à partir d'aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de lycéens aux heures de récréation qui sont à peu près partout les mêmes. Donc c'est une faille de sécurité évidente qui ne demandait qu'une évolution réglementaire minime et qui quand même n'a pas été prise.
Jean-Jacques Renard, pour la Fédération de parents d'élèves, est-ce que vous avez une pression de la part des parents pour que vous soyez porteur de messages?
En fait, le risque, il est partout dans toute la société, il n'est pas concentré sur l'école. Donc les parents d'élèves sont des citoyens comme les autres, ils vivent dans leur quotidien des risques, que ce soit dans les transports, dans les magasins. Donc il n'y a pas une inquiétude plus forte sur l'école qu'elle peut être dans l'imaginaire des gens. Moi, ce que je redoute, c'est que l'école se referme un peu sur elle-même. Parce qu'on milite vraiment pour que l'école soit un lieu ouvert où les parents puissent avoir accès, partager, donc remplir le rôle de coéducateur. Et on l'a vu notamment avec les fêtes d'école qui ont lieu au mois de juin. Il y a eu des attitudes...
Dans les écoles primaires, surtout.
Voilà.
C'est un moment très important dans la vie des enfants.
Un moment très important et on n'a pas toujours compris parce que dans certaines écoles, elles avaient lieu comme d'habitude. Dans d'autres, elles ont été annulées. Et tout ça... la crainte d'un directeur d'école qui ne se sentait pas la responsabilité ou de l'organiser. Donc le souci que l'on a eu, c'était l'incompréhension face à des décisions discordantes d'une école d'un même arrondissement à l'autre.
En tant que chef d'établissement, est-ce que finalement, Philippe Tournier, parfois vous ressentez aussi une forme de solitude face à cette menace, face à ce stress ?
Bon, là, des efforts quand même d'accompagnement ont été faits. Faut pas le nier, y compris de...
Avec des références sécurité au sein du rectorat, etc.
Des références sécurité, des textes qu'on nous a envoyés qui étaient lisibles, ce qui est quand même pas toujours le cas. Donc, on nous a pas envoyé des circulaires de 50 pages.
Parce qu'auparavant, c'était le cas, il y avait des circulaires illisibles, incompréhensibles pour
voilà,
vous,
on
profane.
Dit tout et son contraire d'un bout à l'autre. Il y en a toujours. La production n'a pas cessé. Voilà. Mais là, ça a été résumé dans des textes. Et voilà, on voit grosso modo ce qu'on a fait. Mais je reprends là. Ce qui vient d'être évoqué, la sécurité efficace est une sécurité qui ne se voit pas trop. Bon. Or là, comme on veut rassurer, on veut qu'elle se voit. Donc c'est vrai qu'il y a là une petite contradiction et que les établissements n'ayant pas de personnel de sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnel de sécurité dans l'établissement, et le lieu qui serait probablement le premier exposé à une attaque si par malheur ça arrivait, c'est la loge d'accueil. Et qui se trouve à la loge d'accueil? Un personnel de la collectivité territoriale, et comme c'est un poste statique d'ailleurs, c'est souvent un personnel qui a des difficultés pour se déplacer, etc. C'est-à-dire qu'on va faire peser sur les réactions de cette personne-là, quand même une partie de la destinée de la communauté. Alors on peut former les chefs d'établissement autant qu'on veut à la gestion de crise. Cette question-là n'est pas résolue. Et s'il n'y a pas de personnel de sécurité dans l'établissement, les établissements seront inexorablement tentés de multiplier, si je puis dire, la défense passive, c'est-à-dire multiplier les grilles, les cela, et puis de résoudre le problème de l'intrusion en faisant que plus personne ne rentre. D'ailleurs, effectivement, par exemple, cette année, en général, dans beaucoup de collèges, les parents accompagnent leurs enfants en sixième. Dans beaucoup de collèges cette année, le dis aux parents, bah, vous n'accompagnez pas votre enfant parce qu'on ne peut pas techniquement
Encore plus compliqué pour l'école primaire, notamment pour l'école maternelle où les parents ne sont plus autorisés à entrer dans la classe de l'enfant, hein, si je ne me trompe pas. On va en reparler bien sûr dans la deuxième partie de l'émission. On va rendre l'antenne pour le flash. Vous restez avec nous. Hein. Comment l'école fait finalement face à la fois à son statut de cible potentielle du terrorisme et à sa responsabilité de prévenir la radicalisation.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. L'école face au risque terroriste, comment fait-elle face à la fois en France à son statut de cible potentielle du terrorisme et en même temps à sa responsabilité de prévenir la radicalisation des jeunes? Est-ce que c'est pas trop lourd à porter pour une institution ancienne et dont la vocation initiale est tout de même bien éloignée de la géopolitique? Nous en discutons avec Jean-Jacques Renard de la FCPE, Fédération de parents d'élèves, Valérie Sipahi-Malani du SNES, le syndicat majoritaire d'enseignants dans le second degré collège-lycée, et Philippe Tournier du syndicat des chefs d'établissement. Et vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Je voudrais qu'on donne la parole au téléphone à une psychologue scolaire. Bonjour Patricia Garouste.
Bonjour Emmanuel.
Vous appartenez à l'Association française des psychologues de l'éducation nationale, l'AFPEN. Que vous inspire déjà toutes ces mesures de sécurité sur le plan psychologique? Déjà parlons des élèves, parlons des enfants.
Alors effectivement, on se trouve dans un changement de paradigme hein, par rapport à ce que connaissait l'école jusqu'à présent, mais effectivement ça ne touche pas seulement l'école, c'est l'ensemble de la société qui est impactée par quelque chose d'inattendu, de nouveau en tout cas dans le paysage. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est vraiment que l'impact sur les enfants va dépendre beaucoup, beaucoup de l'attitude des adultes, c'est-à-dire une attitude contenante, une professionnalisation des mesures et de la prise de conscience et une automatisation du fonctionnement des adultes responsables par rapport à ces mesures de sécurité et par rapport à la mesure du risque, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Plus les adultes seront professionnels, automatiseront leurs réponses par rapport au risque, plus ça passera effectivement dans le paysage et dans la normalité du fonctionnement scolaire, de faire des exercices, comme ça a été dit hein, tout à l'heure, des exercices incendie, mais aussi des exercices par rapport à des risques d'intrusion.
Ça veut dire encore plus de savoir-faire à acquérir pour des personnels dont ça n'est pas le métier. On est bien d'accord.
Absolument. Alors, des personnels dont ça n'est pas le métier, l'école, le métier de l'école, c'est quand même d'éduquer des individus. Alors, en France, l'école est tournée beaucoup vers les savoirs, mais développer des savoir-faire et des savoir-être, surtout, devrait faire partie aussi des objectifs.
Valérie Sipahi-Malani.
Non, je réagis parce que les professeurs, ce ne sont pas simplement des déversoirs à savoir pour des élèves qui n'auraient que ça à faire. On est des éducateurs dans la salle de classe. Et puis, il y a aussi la vie scolaire dans les établissements scolaires. Donc, la posture d'éducateur, elle est très importante. Il ne faut pas dire que l'école française ne s'en est pas préoccupée jusque-là.
Alors bon, je suis peut-être un petit peu radicale, mais je travaille dans le premier degré, effectivement.
Donc à l'école primaire.
Voilà, primaire et maternelle. Mmh. Et c'est vrai que l'objectif de faire évoluer l'enfant, pas seulement dans ce qu'il sait, mais aussi dans ce qu'il sait faire et dans ce qu'il sait mettre en œuvre dans la relation, c'est important. Et ce que montrent les adultes aux enfants, leur capacité à être contenant et rassurant, ça va être complètement déterminant.
Mais ça veut dire quoi, par exemple, être contenant et rassurant? Donnez-nous un exemple.
J'entendais tout à l'heure la collègue qui fonctionne en primaire, oui. Relater les mots d'une de ses collègues de maternelle, dire « je me comporterai dans cette situation-là comme une maman oui. ». Eh bien, c'est peut-être justement là qu'il faut prendre la mesure de ce qu'on est en tant qu'individu et de ce qu'on est en tant que professionnel, automatiser des réponses, parce qu'on n'est pas tous ça ne vient pas forcément spontanément de savoir comment est-ce qu'on va réagir dans une situation difficile, d'intrusion, de risque, de danger. Et en ce sens-là, l'institution doit apporter des formations supplémentaires, évidemment.
Donc, donc finalement, pour se comporter de manière plus professionnelle qu'une maman, sous-entendu, c'est ce que vous voulez dire ?
Tout à fait, parce que les aspects psycho-affectifs risquent de parasiter le fonctionnement et la prise de distance et la cohérence d'une posture, d'une réaction pour sublimer la peur. Alors que si on reste dans les affects, on risque d'être envahi par une situation beaucoup plus difficile.
C'est-à-dire que sur ces questions-là, on a besoin probablement, même certainement en tant qu'enseignant, d'un peu de formation qu'on n'a pas vraiment eue pour arriver à prendre de la distance. Et puis on a besoin de temps aussi pour s'organiser collectivement, parce que suivant l'établissement, sa situation géographique, les élèves qu'on scolarise, ce ne sont pas forcément les mêmes choix qu'on a à faire en équipe. Ouais. Et là, paradoxalement, le temps, on ne l'a pas forcément, puisqu'on agit actuellement dans l'urgence presque absolue.
Mmh. Philippe Tournier.
Oui, je reviens sur l'exercice... intrusion, attentat, un exercice, c'est pas une simulation. C'est pas nécessairement faire comme si c'était pour de vrai et réellement se jeter à terre, etc. Parce qu'on risque de se trouver dans une situation à la fois de grotesque, ça peut plutôt faire rire les élèves, et d'un grotesque angoissant. Et dans un ensemble d'établissements, par exemple, il était décidé que cet exercice, on en discuterait au conseil pédagogique. Mmh. Parce que c'est pas qu'un exercice technique. Il y a aussi comment parler de ça aux élèves. Et effectivement, tous les collègues, d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, ont eux-mêmes des difficultés avec cette éventualité.
Ouais. Patricia Garou, c'est un exercice, ça n'est pas une simulation. Vous êtes d'accord avec ça ?
Alors, ce qui me semble essentiel dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, il faut parler avec les enfants, que ce soit des jeunes enfants ou des enfants de lycée. Il faut effectivement pouvoir avoir un temps de débat pour expliquer, pour parler de la sécurité, pour dire qu'effectivement, la sécurité, c'est un devoir pour nous, les adultes, mais aussi dans l'ensemble de la société. Il y a quelque chose d'important là, en termes de vivre ensemble. Donc déjà, intervenir en amont pour dire il va y avoir dans le courant de l'année des moments où on se retrouvera dans des situations d'exercice. Alors vous avez raison, monsieur, de dire que exercice n'est pas simulation. J'ai vécu l'année dernière, au mois de juin, je me suis retrouvée au milieu d'un exercice de confinement dans une école primaire, où c'était très compliqué pour les enfants de tenir 20 minutes silencieux, où il y a eu effectivement, vous avez raison, des fous rires. Voilà.
Voir une incompréhension à l'école maternelle, quand on demande à des enfants de ne plus bouger du tout pendant 20 minutes et de ne pas parler, de ne pas tousser, etc. Restez en ligne avec nous, Patricia Garouste. Je voudrais qu'on donne la parole à une professeure de biologie à Jérusalem, en Israël. Bonjour, Batia Schleider.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes professeur de biologie dans un lycée de Jérusalem. Vous vivez en Israël depuis près de 20 ans. Est-ce que vous recevez, vous, en tant qu'enseignante, des formations, des consignes particulières dans votre établissement ?
Alors, nous avons des formations, mais ce n'est pas tout le corps enseignant qui a des formations. Dans chaque établissement, il y a en fait un professeur qui est responsable de
la sécurité.
Et voilà, donc lui, il reçoit des formations et après, il fait passer au corps enseignant tout ce qui nous touche et tout ce dont on a besoin de savoir. Alors, entre autres, comme des exercices et des simulations de cas.
Oui, qui peuvent être.
Alors, chez nous, en fait, on n'a pas tellement d'exercices de simulation d'enlèvement. On a plus des exercices sous deux sujets. Un, c'est les tremblements de terre, puisque ça aussi, c'est un problème auquel il faut faire face auquel il faut se préparer. Et l'autre, c'est plus un exercice plus général, donc d'état de guerre dans le pays, puisqu'on est soumis malheureusement à ce genre de situation. Et donc, en fait, ce sont les deux gros exercices auxquels on a droit régulièrement.
Néanmoins, devant votre établissement, il y a un vigile armé devant votre lycée.
Tout à fait. Oui, tout à fait. à l'entrée de chacun des établissements scolaires en Israël en général, il y a un vigile armé qui est responsable de la sécurité de tout le monde, bien sûr, nous enseignants aussi, mais c'est lui qui fait le premier, qui fait les premières vérifications, qui ne laisse entrer que les personnes qu'il connaît. Oui. Et s'il y a un moindre doute, il appelle quelqu'un de l'établissement même pour vérifier, être sûr que cette personne est bien attendue. Oui.
Qui peut être un vigile privé ou municipal, c'est ça ?
Oui. A priori, c'est municipal. Après, il y a des arrangements entre la municipalité et les écoles, mais c'est une demande municipale de placer des vigiles à l'entrée des établissements.
Batia Schleider, vous avez quitté la France, vous aviez 18 ans, donc il y a une vingtaine d'années, hein, à une époque où, évidemment, la sécurité n'était pas du tout un sujet dans les écoles françaises.
Tout à fait. Dans les écoles françaises en général aussi.
Oui. Comment est-ce que
j'essaie de faire passer à mes enfants.
C'est ça. Comment, au fil des années, vous, maintenant, vous êtes enseignante en Israël, comment vous avez intégré ce passage d'un pays qui ne connaissait pas réellement la culture de la sécurité à un pays où les problèmes de sécurité sont omniprésents?
D'un côté, en me promenant dans les rues en France, le fait de voir des gens armés ou des soldats un peu plus, c'est d'un côté pas choquant parce qu'on est tout à fait habitué en Israël, mais d'un autre côté, c'est tout nouveau pour moi de le voir en France. Alors, mes enfants, pour eux, c'est comme dit, quelque chose qu'ils connaissent, mais c'est très difficile de leur expliquer que c'est pas quelque chose de normal en France. Honnêtement, quelquefois, ça me fait mal au cœur de voir ça parce que c'est pas la France de mon enfance, c'est pas la belle France que j'ai connue.
Mais vous, en tant qu'enseignante en Israël, est-ce que cette donnée sécuritaire change la façon d'appréhender l'enseignement, l'école, pour vous ou pas ?
Non, du tout. Vraiment, les enfants viennent dans des établissements où ils se sentent tout à fait en sécurité. Et les vigiles à l'entrée et nous, comme en tant qu'enseignants, on leur donne vraiment possibilité et vraiment de se sentir le plus en sécurité possible. C'est vrai qu'après des grands événements qu'on voit dans le pays, il y a certains élèves qui ont besoin d'en parler. Donc, dans chaque établissement, il y a aussi des personnes qui ne sont pas obligatoirement psychologues, mais qui ont une formation pour justement permettre aux élèves de parler, de se faire entendre.
Oui, une formation à l'écoute.
Plus qu'il y a besoin. Voilà. Et pour plus qu'il y a besoin, après les envoyer vers des psychologues qui sauront plus comment aider et quoi faire. Et donc, il y a aussi des personnes comme ça dans chaque établissement qui permettent justement aux élèves de s'exprimer et donc de nous refléter ce qui se passe chez chacun de nos élèves.
Merci beaucoup, Batia Schleider, pour votre témoignage de professeur dans un lycée de Jérusalem, dans un pays, l'Israël, qui a une triste longueur d'avance, si on peut dire, sur les règles et la pratique de la sécurité au quotidien. Patricia Garouste, je sais qu'en tant que psychologue scolaire de l'éducation nationale en France, vous avez été volontaire pour participer à un stage il y a quelques années de la gestion de crise. Y avait des psychologues israéliens dans l'équipe ?
Absolument, il y avait des psychologues israéliens, il y avait aussi des psychologues américains, puisque c'est aux États-Unis, malheureusement, que le premier attentat en milieu scolaire est intervenu à Columbine. Et ces gens-là ont souhaité effectivement mettre à notre disposition des modèles de fonctionnement liés évidemment à des tristes expériences, mais qui
ne sont pas ce qu'on appelle des expériences terroristes, mais en tout cas les tueries, effectivement, en milieu scolaire, il y a une longue tradition aux États-Unis et bien triste, effectivement.
Voilà. Et donc qui permettent de pouvoir revenir rapidement à un état de fonctionnement ordinaire et d'utiliser toutes les stratégies de résilience possibles pour que à la fois les enfants, les adultes, enfin qu'on repère rapidement qui sont les personnes ressources, comment est-ce qu'on revient à un fonctionnement le plus normal possible, le plus contenant possible, pour que l'état psychique retrouve un mode de fonctionnement ordinaire.
Est-ce que vous avez le sentiment, c'est ma dernière question, qu'aujourd'hui les personnels à l'éducation nationale commencent à être suffisamment bien formés à toutes ces techniques ?
Alors, c'est un peu compliqué parce que au fur et à mesure qu'on avance, effectivement, les gens sont de mieux en mieux informés, puis formés. Ceci dit, voilà, on n'est jamais assez formé. Bon, ça commence par les chefs d'établissement, effectivement, qui ont une responsabilité bien plus importante dans l'organisation et la mise en œuvre, la prévention et la mise en œuvre de toutes ces systèmes sécuritaires. Oui.
On va leur donner la parole, hein, justement, chef d'établissement, enseignants et puis parents d'élèves. Merci beaucoup, Patricia Garouste, psychologue scolaire, d'avoir été en ligne avec nous. Valérie Sipahi-Malani, vous souhaitez réagir en tant que...
Non, mais la formation, il n'y en a pas eu, il faut être clair. Hein. De l'information, oui, et souvent pas par l'éducation nationale. On dispose de quelques diaporamas, mais on a de quelques livrets qui ne suffisent pas dans ce domaine-là de l'accompagnement. On ne peut pas se contenter d'informations. Ce que je voulais dire aussi, c'est un autre aspect du plan sécurité, c'est que nous, les personnels, sommes censés repérer nos élèves en voie de radicalisation. Ça nous pose un vrai problème parce qu'on ne sait pas faire. On voit bien que chez les adolescents, un garçon qui se laisse pousser la barbe, ça peut être aussi, ça, je vais le dire très rapidement, ça peut être simplement une crise d'adolescence, de la même manière que certaines de nos élèves peuvent être voilées à la sortie du lycée à un moment, puis se dévoiler ensuite parce qu'elles sont en recherche d'elles-mêmes et de leur identité. Et donc, cette question... de la quête des élèves en voie de radicalisation et aussi de la culpabilisation des personnels qui auraient loupé quelque chose. On se dit toujours, oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'en est pas rendu compte ? Donc c'est extrêmement culpabilisant pour les équipes. Et là, on a un problème d'accompagnement et on a un problème de directive de la part de l'éducation nationale.
Philippe Tournier, oui, sur cette double mission maintenant, protéger et repérer.
Alors, bon, je rappelais d'abord qu'aucun des terroristes qui a agi ne s'était radicalisé à l'école. Je pense que les prisons, par exemple, sont des lieux de radicalisation beaucoup plus importants. Alors, on peut voir des changements comportementaux radicaux qui sont... la radicalisation ne se manifeste pas par l'étalage ostentatoire de ses croyances. Au contraire, hein, c'est plutôt des changements de comportement d'élèves qui, tout d'un coup, se mettent à l'écart, ne veulent plus faire la bise aux filles de la classe, etc. Enfin, des choses...
Mais c'est vrai que les enseignants sont aux premières loges pour observer ces petites choses du quotidien.
C'est vrai qu'une grande partie de ces indices, parfois, ce n'est qu'une crise d'adolescence, y compris d'ailleurs en sachant combien ça peut choquer la société, évoquer l'État islamique est une façon aussi de provoquer, voilà, ce qui est aussi un comportement adolescent. Ceci dit, il y a pas mal de signalements qui sont faits par les établissements. Une grande partie, ce n'était pas des formes de radicalisation ou pas dangereuses.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, du coup, pour vous, en tant que personnel de l'éducation nationale, de stigmatisation ? On vous demande d'enseigner le vivre ensemble, c'est-à-dire la confiance, et en même temps la vigilance, qui implique plutôt une défiance. Est-ce que tout ça, c'est compatible ?
C'est pas tout à fait le même
registre. C'est faisable.
C'est pas le même registre. L'élève en voie de radicalisation, justement. Oui, on nous demande beaucoup de choses, sans toujours nous dire effectivement comment faire, et surtout sans les ressources ni l'autonomie des ressources. C'est-à-dire qu'une grande partie des mesures à prendre, les établissements sont dans un état de totale dépendance eux-mêmes par rapport à leurs financeurs. Alors, leur financeur de collectivité territoriale et aussi un financeur qui ne fait pas trop parler de lui, qui est l'État, hein, sur ces questions, puisque
la formation premier secours, par exemple.
Voilà, bon, la formation, ça fait 30 ans qu'on en parle, voilà, à peu près.
On est censé former tous nos élèves au premier secours, mais on n'a pas les fonds pour payer. Pardon, on est censé payer on est censé former nos élèves au premier secours, mais on n'a pas les fonds pour payer les associations qui font la formation. Donc maintenant, on nous dit qu'il faut absolument le faire. Il faut le faire pour les délégués de classe. C'est une lourde responsabilité
pour les délégués de classe.
Oui. Pourquoi eux et pas les autres ? Pourquoi est-ce qu'ils seraient les infirmiers de la classe ? Et puis de toute façon, on n'a toujours pas les fonds même pour eux. Donc la question sera vite résolue.
Jean-Jacques Renard, représentant de la Fédération de parents d'élèves, la FCPE, sur cette école que vous souhaitez, en tout cas en tant que Fédération de parents d'élèves, qui reste ouverte sur l'extérieur, quelle tournure prennent les événements ? Pour vous.
En fait, pour réagir à ce qui vient d'être dit, j'ai l'impression que même s'il n'y a pas eu de formation, il y a une sensibilité qui s'est produite et les personnels ont très vite acquis les réflexes, les bons réflexes, sans pour autant être formés. Je donnerai un exemple. Quand il y a eu Charlie Hebdo, l'Académie de Paris a demandé aux établissements de mettre à jour leur PPMS, hein, et pour une date limite qui était de mémoire le 20 fin novembre.
Le plan de sûreté.
Le plan de sûreté, le plan de mise en sécurité, qui était le 20 novembre, date limite. Certains ont traîné. Est arrivé le Bataclan le 13
novembre.
Et il y a un certain nombre d'écoles, notamment,
17,
dans, qui se sont tout d'un coup, dans la semaine qui a suivi, parce que c'était la semaine des vacances scolaires, qui ont fait les exercices, qu'ils auraient dû faire avec la panique totale chez les enfants, parce qu'ils n'avaient pas été préparés et que les chefs d'établissement voulaient se mettre, enfin les directeurs d'école notamment, parce que c'était des écoles élémentaires, ont voulu se mettre en conformité avec ce qu'on leur avait demandé. Donc ça a vraiment créé de la panique chez les enfants et c'est le contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, je crois qu'on n'agirait plus comme ça. Je crois qu'on a pris conscience qu'il y avait une situation de fait qui s'installait dans la durée, qu'on n'était plus dans l'urgence d'agir en dépit de, j'allais dire, du bon sens, là, en l'occurrence.
Alors, on arrive bientôt au terme de cette discussion. Pour tous les trois, à quoi faut-il veiller avant tout pour que l'école reste un sanctuaire, mais avec avec sa vocation première de sanctuaire, Philippe Tournier?
L'école n'a jamais été un sanctuaire. Voilà, l'école, c'est l'école.
Je pense qu'il ne faut pas que ce soit un sanctuaire, justement.
Tout simplement, ce n'est pas un sanctuaire.
Sanctuaire républicain, on le comprenait
bien. Je pense qu'aujourd'hui, les 77 000 lieux d'enseignement de France sont sans doute parmi les lieux, en fait, les plus sûrs. Il faut le dire. D'abord, ils l'étaient déjà. Et ils le sont plus encore, parce que même si, effectivement, on est encore loin du compte sur un certain nombre de choses, les personnels... pour eux, ce qui était improbable est devenu possible. Et effectivement, je pense que ça a changé un peu la façon de voir les choses. En revanche, il faut arrêter de dire sans arrêt que c'est la prochaine cible, etc., etc. Ouais. Je pense qu'on crée là un climat qui ne facilite finalement pas le travail sur la sécurité.
Valérie Sipahi-Malani.
Oui, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Philippe Tournier. Je me disais que finalement, l'école, elle a bien d'autres violences, violences symboliques et violences sur les élèves à traiter, et que les attentats, c'est une partie.
Vous pensez aux inégalités scolaires, à l'échec scolaire.
Je pense à l'échec scolaire, je pense aux inégalités sociales, je pense au collège ghetto où il y a beaucoup d'élèves en difficulté, et puis au collège refuge ou à la concurrence entre le public et le privé. Donc il y a bien d'autres questions. La sécurité, comme je vous le disais au début, ça devrait rentrer dans les coutumes, dans les habitudes de vie, dans les réflexes. On ne devrait plus y penser, ou du moins pas trop, pour pouvoir faire notre vrai métier, qui est de construire une culture et une vie commune. Tous ensemble.
Merci à vous tous. Je suis désolée, on arrive vraiment au terme de cette émission et de cette discussion. En tout cas, merci à vous, Jean-Jacques Renard, Fédération de parents d'élèves, Valérie Sipahi-Malani du SNES, le syndicat d'enseignants du second degré, et Philippe Tournier du syndicat des chefs d'établissement. Dans quelques instants, je donne la parole à Sina Toussaka, c'est la chronique Bourse d'études. Merci beaucoup à vous.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Le monde est un village planétaire.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures.
Malgré toutes nos différences, il y a toujours quelque chose, quelque part, qui nous rapproche.
Eh bien tiens, il y a quand même une émission qui pense à tout le monde.
Il y a tellement de richesses ailleurs.
7 milliards de voisins. Et entre nous, là, entre les voisins.
7 milliards de voisins?
Oui.
C'est maintenant.
7 milliards.
Bonjour Sina Toussaka.
Bonjour Emmanuel.
Vous fouillez la toile pour informer les étudiants sur les possibilités de financer leurs études avec des bourses d'excellence. Et aujourd'hui, vous nous parlez du programme de bourse pour les leaders africains qui est géré entre autres par le Bureau canadien de l'éducation nationale. On vous écoute Sina Toussaka.
Alors tout à fait, je vais d'abord préciser que le Bureau canadien de l'éducation internationale est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui se consacre à l'éducation dans le monde. Et ce bureau gère en effet ce programme de bourse créée après la mort de Nelson Mandela en hommage à son action.
Alors qui est concerné par cette bourse donc du Bureau canadien de l'éducation internationale?
Ce programme octroie donc 60 bourses à des jeunes de 22 à 35 ans qui résident en Afrique subsaharienne pour des études au Canada pendant 2 ans afin d'obtenir un master d'administration, de politique ou de finances publiques. Donc la cible, c'est clairement des jeunes qui ont de 2 à 5 ans d'expérience dans le secteur public, de la société civile ou dans un institut de recherche en Afrique.
Ah oui, c'est ça, qui n'ont pas seulement un statut d'étudiant sur leur CV, mais qui peuvent justifier de cette expérience. Et quel est le montant de la bourse ?
environ 55 000 dollars canadiens, donc 38 000 euros pour 2 ans. Le montant de la bourse, attention, donc, varie selon le pays d'origine et l'université choisie.
Oui.
Dans tous les cas, elle comprend le billet d'avion aller-retour, les frais de scolarité, une allocation mensuelle de subsistance, une indemnité d'installation et la participation à des colloques au Canada, l'assurance maladie, les frais du permis d'études. Autre point d'attention, donc, les exigences des universités canadiennes qui varient aussi selon votre pays d'origine. Si vous êtes béninois, par exemple, et que vous postulez à un master de l'Université d'Ottawa, vous devez avoir obtenu 12 sur 20 à votre maîtrise. Par contre, si vous êtes algérien, une licence avec une moyenne de 12 sur 20 suffirait pour postuler à un master. Donc,
ah oui.
N'hésitez pas à
bien
vérifier.
Donc, les Béninois perdent un an, les Algériens non, par exemple. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil pour les candidats à ces bourses au Canada? Donc, 55 000 dollars canadiens pour 2 ans et pour faire un master en finances publiques, en administration publique.
Première chose, il faut choisir 3 universités sur le site du Bureau canadien de l'éducation nationale. Pour ça, il faut donc bien connaître les spécificités des universités et vérifier que vos choix correspondent à vos intérêts et qualifications. Ensuite, la lettre de motivation demandée parmi les pièces à fournir ne doit pas dépasser 750 mots. Elle doit présenter très clairement la raison pour laquelle vous souhaitez faire des études d'administration publique et la façon dont vous utiliserez votre formation à votre retour dans votre pays d'origine. Et Suzanne Isaac, donc la responsable du programme que j'ai interrogée, insiste aussi sur l'étude de cas à transmettre au jury de la bourse. Ouais. Il doit présenter un problème d'administration publique en Afrique et le boursier s'engage à étudier tout au long de sa formation. Dernier petit conseil, donc les candidats admissibles ayant un dossier complet seront évalués selon leur mérite scolaire, la capacité éprouvée de leadership dans leur pays d'origine et je vous propose de montrer que vous pouvez réellement apporter quelque chose chez vous.
Oui.
Ensuite, les voisines, l'année dernière, il y avait seulement 23% des postulants qui étaient des femmes. Vous avez donc toutes vos chances qu'elles recherchent autant d'hommes que de femmes.
Ah oui, d'accord, c'est ça. Ça, c'est la parité au Canada. Merci beaucoup, Sinatou Saka. Ouverture des candidatures entre le 8 et le 14 octobre prochain. Résultat des sélections en janvier 2017. Toutes les infos sont à retrouver sur le site RFI.fr, à la page des 7 milliards de voisins. Merci infiniment. Lundi, on parlera de la télévision dans vos pays avec Internet et les programmes à la demande. Les téléspectateurs sont-ils devenus plus exigeants? On en discute lundi. Merci à vous tous de votre fidélité. Carrefour de l'Europe.